Vous êtes sur RTL.
10h30.
RTL Midi, Alexandre de Saint-Aignan.
Bonjour à tous, bienvenue dans RTL Midi, votre rendez-vous d'information de la mi-journée avec à la une les adieux déchirants de Lionel Messi en larmes à Barcelone. Son arrivée au Paris Saint-Germain serait une possibilité selon lui. Dans ce journal également, des handballeuses en or pour fermer le tableau des médailles olympiques pour la France. 33 récompenses au total. La délégation tricolore termine 8e au classement avant de passer le relais à Paris 2024. Les derniers ajustements du gouvernement à la veille de l'extension du pass sanitaire et puis une nouvelle nuit terrible en Grèce, 12 jours après le début des incendies. Dans un quart d'heure, chemin d'écrivain sur les routes de la littérature avec Bernard Lehu. Bonjour Bernard.
Bonjour à toutes et à tous.
Direction le Sud-Ouest.
À Toulouse, avec le prix Goncourt 2019, Jean-Paul Dubois, qui est né et a toujours vécu dans sa ville.
À tout à l'heure Bernard. La météo, Valérie Quintin, comment ça va se passer cet après-midi?
Eh bien plutôt bien, plutôt un petit peu mieux que prévu justement. Alors on a du soleil cet après-midi, ce sera le cas jusqu'à ce soir entre les Alpes, l'Auvergne et la Méditerranée. Et pour les deux tiers nord du pays ainsi que pour le sud-ouest, certes des orages, des pluies orageuses, quelques averses circulent d'ouest en est. Mais entre deux, on a quand même quelques petites portions de ciel bleu et rien que ça, c'est déjà un mieux. Les températures, bon voilà, ça bouge pas. 19 degrés attendus à Brest cet après-midi, 20 degrés à Lille, 21 à Nancy, 22 à Paris et Biarritz, 24 à Grenoble et Montauban, et on a un petit coup de chaud dans le sud-est avec 30 degrés à Bastia et même 32 degrés à Nice.
Le prochain point météo à 13h. Merci Valérie.
Alexandre de Saint-Aignan,
RTL Midi.
Ce sont les premiers mots de Lionel Messi depuis l'annonce de son départ fracassant du FC Barcelone. Le sextuple Ballon d'Or s'est exprimé il y a quelques minutes lors d'une conférence de presse dans l'enceinte même du Camp Nou.
Me hizo crecer, seguir mejorando y ser la persona que...
J'aimerais dire que j'ai une foi pour ce club que je garderai jusqu'au bout, car elle est en moi. Porter ce maillot a fait la personne que je suis aujourd'hui, du premier jour jusqu'au dernier jour. Merci à tous ceux qui m'ont suivi. J'aurais préféré vous dire au revoir dans d'autres conditions. J'aurais jamais imaginé le faire ainsi. J'aurais préféré une ultime ovation, mais je n'ai pas pu à cause de la pandémie.
Voilà Lionel Messi qui quitte son club de toujours. Bonjour Eric Silvestro.
Bonjour Alexandre.
Alors Lionel Messi qui s'est montré très ému, hein, il est arrivé au pupitre, les larmes aux yeux.
Oui, les larmes aux yeux, il s'est notamment essuyé les yeux à plusieurs reprises, alors dans un costume et cravate très très élégant sur un fond bleu avec juste le logo du club, le drapeau du FC Barcelone et le drapeau catalan. C'est vrai qu'on n'imaginait pas du tout ça pour Lionel Messi, qu'on a l'habitude de voir dans le Camp Nou au milieu des supporters. Il l'a dit, c'est ce qu'il regrette le plus, ne pas pouvoir dire au revoir à ce club où il est arrivé à l'âge de 13 ans, rendez-vous compte, c'est toute une vie, toute sa vie s'est passée à Barcelone. Il a dit, c'est la personne que je suis a été faite grâce au Barça, j'ai donné tout ce que j'avais à donner pour ce club, malheureusement je ne peux pas y rester. Il était extrêmement ému, touché devant ses amis, devant certains de ses coéquipiers, ses anciens coéquipiers désormais. Lionel Messi donc qui a pleuré à plusieurs reprises et qui a eu une longue, très très longue ovation à la fin de son intervention.
Bon, et puis ce qui nous intéresse aussi évidemment ce midi, Eric, c'est l'avenir de Lionel Messi. Est-ce qu'il a dit quelques mots sur son éventuelle arrivée au Paris Saint-Germain ?
Alors il a fallu attendre 2-3 questions pour entendre le mot du Paris Saint-Germain prononcé, mais il ne s'est pas défaussé Lionel Messi, il a dit que le Paris Saint-Germain était évidemment une possibilité, il a essayé de préciser que d'autres clubs s'intéressaient à lui et que rien n'était réglé, mais clairement désormais il ne fait plus aucun doute, Lionel Messi, sauf vraiment cataclysme, sera un joueur du Paris Saint-Germain, c'est le seul club qui travaille vraiment sur le fond du dossier. Lionel Messi est d'ailleurs attendu peut-être dès ce soir à Paris et pourrait même passer sa visite médicale ce soir ou demain matin dans les services du club. Tout le monde s'organise, le service communication notamment, avec ses dirigeants qui étaient pour certains en vacances en Espagne, eh bien vont faire leur retour à Paris eux aussi dès cet après-midi pour préparer l'arrivée imminente de Lionel Messi. Voilà, il ne s'en est pas caché Lionel Messi, il sait qu'il sera un adversaire du FC Barcelone bientôt, et autant il avait pleuré pour parler du Barça, autant dès qu'il a fallu parler de son avenir, il est redevenu extrêmement sérieux Lionel Messi, il est déjà focalisé vers l'avenir, c'est un joueur de foot pro et il veut savoir ce qu'il va le faire prochainement. prochainement et ce sera sans aucun doute à Paris.
Voilà Lionel Messi au Paris Saint-Germain. On va continuer de suivre ce dossier avec vous, Eric Silvestro du service des sports de RTL. On vous retrouve ce soir pour RTL Foot à partir de 20h. On parlera sans doute évidemment de Lionel Messi. On suivra aussi la suite et fin de la première journée de Ligue 1. Hier, le Paris Saint-Germain a battu 3-2 buts à 1. Match nul un partout entre Lyon et Brest. Ce dimanche, pas moins de 7 rencontres au programme. D'abord à 13h, Rennes reçoit Lens. À 15h, les coups d'envoi de Bordeaux-Clermont, Nice-Reims, Saint-Etienne-Lorient, Strasbourg-Angers. Et puis à 17h, Metz-Lille. Ce soir, 20h45, Montpellier face à Marseille.
RTL à Tokyo.
C'est la dernière Marseillaise de ces Jeux Olympiques au Japon. Peut-être l'une des plus belles aussi pour les handballeuses françaises, sacrées championnes olympiques. Après avoir battu la Russie en finale, les Bleus offrent ainsi au handball féminin français la première médaille d'or de son histoire, Isabelle Langer.
Ah ouais, c'était la seule médaille qui manquait encore au prestigieux palmarès de cette équipe de France. L'anomalie est donc corrigée. Et de quelle manière les Françaises ont été magiques aujourd'hui face à ces Russes. Une victoire 29-25. Il y avait tellement de bonheur, d'émotion sur le visage de ces filles, des nanas fantastiques. Il y a une telle alchimie entre elles, mais aussi leur sélectionneur, l'emblématique Olivier Crumbles. Je vous propose d'écouter Alison Pinault et l'entraîneur justement des championnes olympiques. Oui, vous entendez bien, des championnes olympiques au micro de nos confrères de France Télévisions.
C'est dur de réaliser, je suis désolée. Beaucoup d'émotions qui remontent. Je savais qu'on allait aller au bout, j'ai pas arrêté de le répéter. On gagne cette finale de cette manière.
C'est une merveilleuse récompense pour tout le monde parce que tout le monde a beaucoup travaillé. Un résultat à la hauteur de l'investissement.
Et c'est un feu d'artifice final pour le hand tricolore. Dans les tribunes, les garçons, sacrés hier pour la troisième fois au jeu, sont venus soutenir les filles. Lucas Karabatic est au micro de Nicolas Burnand.
Ouais, c'est génial, ça montre voilà, toute la qualité de ce qu'on fait en France, que ce soit chez les hommes, chez les femmes. Et aujourd'hui, c'est l'apothéose pour le handball français. Ouais, double champion olympique, c'est un truc de fou, c'est le Graal. On sait à quel point c'est difficile. On est extrêmement fiers de ce que les filles ont réalisé. Elles ont vraiment fait un grand match. Et elles ont mérité ce titre, elles ont vraiment dominé du début à la fin et il n'y a rien à dire.
Et ce que je peux vous promettre, c'est que ce soir ici au Club France où je suis, eh bien, la fête va être belle pour tous ces champions et championnes olympiques. Et la nuit, ça sera certainement courte avant de prendre l'avion pour Paris où le hand français espère partager son bonheur avec les supporters, notamment place du Trocadéro.
Isabelle Langer pour RTL. Le handball français qui réalise un doublé historique, médaille d'or pour les filles après le sacre des garçons hier. Clap de fin pour les Jeux Olympiques aujourd'hui à Tokyo. 33 médailles au total pour la délégation française. 10 en or. Les Bleus terminent 8e du classement. On retrouve Nicolas Burnand à Tokyo pour RTL. Après ces Jeux Olympiques fortement marqués par la crise sanitaire, la cérémonie officielle de clôture va débuter dans une vingtaine de minutes.
Oui, le stade olympique est illuminé dans la nuit moite de Tokyo. La cérémonie sera sobre et courte. Une heure environ, sans public, comme celle qui a ouvert ses Jeux de la pandémie. Le Français Steven Dacosta, premier champion olympique de karaté de l'histoire, sera le porte-drapeau des tricolores. Ils seront une petite trentaine, mais ils ne vont pas défiler par délégation. Tous les athlètes entreront en même temps dans l'enceinte pour ce qui restera une fête. Moment très attendu, le traditionnel passage de témoins. Il se déroulera à la fin de la cérémonie, une quinzaine de minutes, moment évidemment rempli d'émotions et de symboles. La gouverneure de Tokyo remettra d'abord le drapeau olympique à Thomas Bach, le président du CIO, qui le transmettra ensuite dans les mains d'Anne Hidalgo, la maire de Paris. L'élu attendait cela depuis si longtemps.
C'est un moment vraiment très fort parce que cette cérémonie, c'est bien sûr la passation du drapeau, mais c'est aussi la première carte de visite qu'on envoie au monde entier aux Jeux de 2024. À Paris, en France, 100 ans après, pour des Jeux d'été, ce moment-là, on va le vivre. Je pense que c'est un moment unique dans notre vie et de force symbolique.
Mais le spectacle, lui, aura bien lieu à 9000 km d'ici, dans les jardins du Trocadéro. Les téléspectateurs du monde entier le verront en présence de Tony Estanguet, le président du comité d'organisation de Paris 2024, entouré des médaillés rentrés de Tokyo. Une réplique du drapeau olympique sera hissée sur l'hôtel de ville avant qu'il n'entame un tour de France ces prochains mois.
Nicolas Burnand, envoyé spécial à Tokyo pour RTL. On va aller justement sur la place du Trocadéro avec Pierre Herbulot qui va suivre la cérémonie de passage du flambeau cet après-midi à Paris. Une célébration XXL au pied de la Tour Eiffel mais qui s'annonce perturbée par une météo capricieuse.
Oui, un peu de vent qui compromet le clou du spectacle de cet après-midi, ce que l'on nous vendait comme une prouesse technique exceptionnelle, un drapeau français géant accroché à la tour Eiffel, 90 mètres par 60, à peu près la taille d'un terrain de foot. Du jamais vu, qu'on ne verra donc pas non plus tout à l'heure, les conditions de sécurité ne sont pas réunies, il faudra se contenter d'un film des répétitions. Pour le reste, pas de changement, on va retrouver des athlètes médaillés de Tokyo à peine remis de leur décalage horaire, la mythique Patrouille de France et un concert de l'artiste Woodkid, 12 minutes de cérémonie qui sont en fait une partie du show de clôture de Tokyo diffusé en Mondovision, un spectacle ouvert au public puisqu'il sera retransmis sur les écrans géants de la fanzone du Trocadéro. L'objectif, c'est de donner un avant-goût d'un certain vendredi 26 juillet 2024, jour du début des Jeux de Paris, et d'envoyer un message, la France se tient prête, ou presque, avec cette histoire de drapeau. Mais souvenez-vous de la maxime de Coubertin, l'important c'est de participer.
Merci Pierre Herbulot pour RTL. Dans un instant, une main de fer dans un gant de velours pour le gouvernement à la veille de l'entrée en vigueur du pass sanitaire.
Alexandre de Saint-Aignan, RTL Pocket. RTL Midi, Alexandre de Saint-Aignan.
12h41 sur RTL, en plein cœur des vacances d'été, la contestation du pass sanitaire a encore pris de l'ampleur hier, avec 237 000 manifestants à travers toute la France pour tenter de répondre aux inquiétudes. Deux ministres sont montés au créneau ce matin dans la presse, entre fermeté et pédagogie, à la veille de l'entrée en vigueur du pass sanitaire, Jacques Serret.
Oui, Olivier Véran, dans Le Parisien, la ministre du Travail Elisabeth Borne dans Le Journal du Dimanche, l'exécutif répond aux anti-vax, aux anti-pass sanitaires. Le ministre de la Santé qui se montre ferme face à eux. Je veux bien entendre les peurs, tout faire pour rassurer, mais à un moment, ça suffit, peste-t-il. La ministre du Travail, elle annonce que pour les contrôles de pass sanitaires, que ce soit pour les clients à partir de demain ou pour les salariés à partir du 30 août, il y aura une période de souplesse dans les deux cas. Nous voulons privilégier la pédagogie, se défend Elisabeth Borne, comme si le gouvernement marchait sur un fil. Et c'est peut-être ce qui explique cette annonce du ministre de la Santé. À moins de 24 heures de l'entrée en vigueur du pass sanitaire, désormais, un dépistage négatif sera valide 72 heures et non plus 48 heures pour les non-vaccinés. Il sera également possible pour eux d'effectuer des autotests supervisés par un professionnel de santé. Bref, c'est le en même temps, en plein cœur de l'été pour le gouvernement, entre volonté de ne rien céder, de ne rien lâcher face aux protestataires et souhait quand même de calmer le jeu, alors que le nombre de manifestants a plus que doublé en trois semaines.
Jacques Serret du service politique de RTL. Direction la Grèce, à présent, une destination prisée des touristes français, mais sur place, les vacances sont perturbées. Depuis une dizaine de jours maintenant, le pays est ravagé par des violents incendies. Plus de 56 000 hectares ont été ravagés par les flammes. Les précisions à Athènes de notre correspondante sur place, Alexia Kefalas.
Oui, le nuage de fumée qui recouvrait Athènes s'est estompé, tout comme la pluie de cendres qui tombait sur la ville jusqu'à hier. Il n'y a plus de foyers actifs au port de la capitale ce midi. Mais tous les regards se tournent vers l'île de Bé. Des milliers d'hectares de forêt brûlent depuis plus de 5 jours. De plus en plus d'habitants sont évacués sans savoir s'ils pourront retrouver leur maison. De même pour les touristes transférés actuellement vers des hôtels du sud de l'île qui ne sont pas privés d'eau et d'électricité. Les moyens aériens, dont 7 avions et hélicoptères, semblent avoir du mal à survoler cette région, alors que 263 pompiers grecs sont épaulés par plus de 200 collègues venus d'Ukraine et de Roumanie. L'armée utilise des bulldozers pour leur ouvrir les routes. Les efforts déployés sont titanesques, mais cela ne semble pas atteindre la rapidité de la langue de feu qui descend dangereusement vers le reste de l'île.
Alexia Kefalas en Grèce pour RTL. Allez, dans un instant, direction Toulouse, chemin d'écrivain avec Bernard Lehu, qui nous emmène à la rencontre de l'auteur Jean-Paul Dubois.
Alexandre de Saint-Aignan,
RTL Midi Tendre.
Chemin d'écrivain, Bernard Lehu.
Bonjour à toutes et à tous. Pour ce premier rendez-vous du mois d'août, je vous propose de rejoindre le lauréat du prix Goncourt 2019, Jean-Paul Dubois. L'auteur de « Tous les hommes n'habitent pas le monde de la même façon » est né et a toujours vécu à Toulouse, même si son premier métier de grand reporter l'a souvent fait voyager. C'est donc dans la Ville Rose que nous retrouvons Jean-Paul Dubois, chez lui, dans une pièce qui lui est particulièrement chère.
Oui, c'est le bureau, c'est là où je travaille. Quand je travaille, parce que, donc j'essaie de l'éviter. Oui, c'est un endroit qui est chargé, on va dire. Tout a un sens. Là, j'ai toutes les peluches de mes enfants et petits-enfants. Je ne les compte pas, mais il y en a au moins une quarantaine.
Qu'ils vous ont offertes ou que vous avez détournées ou...
Non, c'est moi qui leur ai offertes. Je leur ai piqué quand ils n'ont plus eu l'âge de jouer avec. C'est on dirait un truc de brocanteur qui a dévissé. Quoi. Il n'y a que des choses très intimes là. Je pourrais vous raconter l'histoire de chaque petit objet qui prend sa racine dans la famille. Il y a les cannes de mon grand-père qui était berger.
Et alors, c'est le lieu de l'écriture. C'est ouais. là, c'est sur ce bureau ouais. donc que sont nés la plupart des romans de Jean-Paul Dubois.
Tous, sans exception, sauf le premier que j'avais fait dans ma première maison sur une machine à écrire Japy rouge. Et après, tout est passé au numérique. Et je l'ai fait ici parce que j'ai essayé, je me suis dit je vais aller le faire ailleurs, mais j'ai la trouée de pas y arriver. Donc, comme je suis un mec qui a des rituels, des tics, des manies, je me suis entouré de la caméra de mon père. Voilà, je me suis entouré d'objets familiers. C'est son bureau, voilà, c'est sa bibliothèque.
Et puis on a un petit compagnon à quatre pattes là qui vient de s'installer à nos pieds. Vous faites les présentations?
Bah, c'est Watson. Je pense qu'il est, c'est un des chiens les plus célèbres parce que je pense que sur tous les reportages qui ont été faits ici les deux dernières années, il est sur toutes les photos des magazines, des quotidiens. Il a fait la dernière page de Libé où il est. C'est lui qui est en photo au bureau. Moi, j'y suis pas. Il est tout le temps là et il a le don de s'incruster.
Et alors, ça n'est pas le seul chien présent dans ce bureau, Jean-Paul Dubois.
Non, il y a aussi ma chienne, dont les cendres sont sur mon bureau avec sa laisse, son collier. Et j'espère qu'elle y restera longtemps avec moi. J'ai jamais pu la quitter, on s'est jamais quitté et on continue à ne pas se quitter, même depuis qu'elle n'est plus là. J'ai toujours vécu ici avec des animaux, toujours. Et la chienne qui était avec moi, qui s'appelait Charlie, avec qui j'ai vécu donc pratiquement toute sa vie, après sa mort, la nuit, parce que les derniers temps de sa vie, je sortais avec elle la nuit parce qu'elle avait des insomnies et des douleurs, donc je l'accompagnais marcher dehors et tout. Après sa mort, je l'entendais marcher dans la maison et je l'entendais aboyer la nuit. Et je me levais, ça paraît déraisonnable de dire ça, mais vous avez une telle imprégnation, un tel amour, une telle communion avec ces animaux que quand ils disparaissent, il y a une forme de panique mentale qui s'installe, je crois, pendant quelque temps. Et ils sont encore là. Et il ne se passe pas une journée sans que je pense à elle. Quoi. Et elle vit avec moi, ses cendres sont sur mon bureau. Mais c'est normal. Excusez-moi. Watson, s'il te plaît. Watson, reste avec moi. On découvre sans arrêt que le monde dans lequel on vit est beaucoup plus complexe et beaucoup plus raffiné que celui qu'on croit. Donc, Charlie a sa place là-dedans, Watson a sa place là-dedans, au même titre que toute autre personne qui vit dans cette maison. Et j'ai la même attention pour eux que pour tous les gens qui vivent ici. Moi et les gens qui y vivent, c'est pas du tout une pause, mais c'est naturel, ils vivent avec nous.
Parmi tous ces objets ici, s'il y en avait un seul dont vous ne pourriez absolument pas vous séparer, ce serait lequel?
Il y a un truc qui est là, qui est une phrase, je crois que c'est de La Bruyère, que j'ai depuis que je suis pratiquement gamin, qui est ce qui me donne envie d'être comme ça. Voyez, si vous voulez, je peux vous la lire, elle n'est pas très...
Volontiers, on vous écoute.
Il faut en France beaucoup de fermeté et une grande étendue d'esprit pour se passer des charges et des emplois, et consentir ainsi à demeurer chez soi, à ne rien faire. Personne, presque, n'a assez de mérite pour jouer ce rôle avec dignité et assez de fond pour remplir le vide du temps, sans ce que le vulgaire appelle les affaires. Il ne manque cependant à l'oisiveté du sage qu'un meilleur nom et que méditer, parler, lire et être tranquille s'appelle à travailler. C'est un projet de vie, à peu près comme Watson en ce moment.
Qui est donc toujours allongé sous votre bureau. On va quitter Watson? Vous nous emmenez où, Jean-Paul Dubois?
Dans trois jardins. Le jardin royal, le grand rond et le jardin des plantes. Et ils ont comme particularité d'être d'abord magnifiques et d'être reliés entre eux par des passerelles aériennes. Ce qui vous permet de passer de l'un à l'autre. Et chacun, dans ma tête, a sa petite histoire. Ce sont des univers sensibles.
Vous allez nous raconter tout ça. En route? En scooter?
Oui.
C'est ça?
Tu m'attends, mon gars.
Au revoir, Watson.
Si j'ai les peaux.
voici devant le premier de ces jardins que vous voulez nous faire visiter, Jean-Paul Dubois.
C'est le grand. Vous allez comprendre pourquoi tout de suite, il est grand et il est rond. C'est le jardin, je pense, le plus bête du monde, mais qui est grand et qui est rond.
Qu'est-ce que vous avez comme souvenir ici?
Le vélo à toute vitesse. Et ici, je tournais comme un malade. Et je tournais jusqu'à plus avoir de jambes ou de souffle. Mais c'était des vélos de gosse. Hein. Je ne sais pas, j'avais 4-5 ans que je venais ici. C'était des trucs de gosse. C'est vraiment ces trois jardins-là, c'est les mécanismes primaires de l'enfance.
Quand on vous parlait de Toulouse, c'est d'abord l'enfance, non?
Oui, c'est l'enfance, parce que moi je n'ai vécu ici, enfin à plein temps, je veux dire, à y vivre tous les jours, ça se résume à l'enfance et à la jeunesse, à la prime jeunesse.
Là on danse sous le kiosque à musique, et c'est latino là, c'est très chaloupé. Ouais,
ça a l'air cubain, c'est par là. Oui, non, là. L'enfance c'est un truc... À partir, c'est un truisme dire ça, mais c'est l'époque à partir de laquelle, pour moi, tout se construit. La mémoire se construit et la mémoire oublie dans le boulot que je fais, c'est-à-dire en écrivant des livres. Quand vous isolez le temps du travail, cette mémoire enfouie remonte. Et ça remonte toujours, toujours de l'enfance. Toujours. Regardez ça, c'est magnifique.
Magnolia. Blanc, tout en fleurs.
Donc cette mémoire, elle est, pour moi, elle est essentielle, quoi. C'est le premier outil de travail. Avant l'ordinateur, il y a la mémoire morte. Il y a le pouvoir de se réveiller comme ça.
Mais en quoi on la retrouve dans vos romans, par exemple, dans votre prix Goncourt? Où est cette enfance?
Par exemple, dans le prix, vous avez la voiture dont mon père m'a parlé pendant des années quand elle est sortie. C'est la Aero 80, la voiture à moteur rotatif Wankel. J'ai entendu toute mon enfance, mon père parler de cette voiture. C'est un petit personnage du livre. Mais il y a plein de choses comme ça. Moi, dans mes livres, il y a tout ce qui a trait au père, à la mère, qui ne sont pas des portraits de mon père et de ma mère, mais qui reviennent de là, quoi. Vous avez des sentiments, des peurs, des émotions que vous retrouvez, que vous remettez dans un livre. C'est des peurs qui reviennent de l'enfance.
Que diriez-vous de votre enfance? Vous avez été un enfant heureux?
Non, je n'ai pas été un enfant heureux, j'étais un enfant inquiet.
Pourquoi?
Parce que mon père avait une santé très très fragile, mes parents étaient plus âgés que la moyenne. Et j'étais fils unique, c'est-à-dire le mec qui s'emmerde et qui quitte ses copains, qui se retrouve chez lui avec des parents plus âgés, beaucoup plus âgés que lui, donc avec des centres d'intérêt, une culture qui vient d'un autre monde. Ouais, c'est des problèmes de luxe, de gosse, mais enfin c'est des problèmes emmerdants. D'être seul comme ça, avoir l'inquiétude. Je sais que la nuit, je me relevais pour voir si mon père respirait toujours. Donc ça vous donne une vision du monde un peu qui n'est pas tellement positive, joyeuse, et c'est l'inquiétude, quoi. Mais c'est très, là aussi, c'est très formateur. Moi, je remercierai jamais assez mon père d'avoir été malade pour m'avoir appris que la vie était un bien ultra précieux, hyper fragile, et que ça pouvait s'arrêter à chaque instant. Et quand vous grandissez avec cette idée en tête, que tout s'arrête à chaque instant, vous grandissez différemment. Vous comprenez, vous regardez la vie différemment, le travail différemment, le temps que vous allouez au travail et le temps que vous offrez à votre vie. C'est très différent. Donc c'est pas une jeunesse heureuse, mais c'est une jeunesse très formatrice. Derrière, il y a des cascades avec des rochers où vous montez là-haut. Et là, c'était...
On va s'approcher de cette grande cascade. Alors là, on a quitté le grand rond et ici, ce deuxième jardin.
C'est le jardin des plantes.
Le jardin des vacances.
Qui jouxte le muséum d'histoire naturelle. Voilà. Ça, c'était le truc des Indiens.
Le petit Dubois jouait aux Indiens, ici.
Oui. C'est le truc de gamin, il n'y a rien d'extraordinaire ici. Mais c'est aussi des passe-temps de gamin solitaire, quoi. Moi, quand j'étais seul, je venais ici. Donc vous vous retrouvez livré à votre imagination. Vous retrouvez la même disponibilité que vous pouvez avoir intellectuellement quand vous faites un livre. C'est un truc solitaire.
Alors là, on arrive dans le troisième. de ces jardins?
C'est les jardins royaux.
Alors on a beaucoup parlé de l'enfance, mais je me disais que peut-être que dans ces jardins, il y a aussi des souvenirs d'adolescence, non? Je ne sais pas, avec peut-être les premiers flirts, les premières filles, ou non? À vous, vous dites non de la tête immédiatement.
Zéro. C'est pas... Non, j'allais plus là quand j'étais adolescent. Ça, c'est des...
C'est vraiment le domaine, le royaume de l'enfance ici.
Ouais, là, l'enfance jusqu'à, on va dire, 10-11 ans, quoi. Mais là, c'est un apprentissage au toucher, à l'odeur, sans explication, la vision, l'apprentissage du beau. Parce que quand vous regardez, la première chose que vous voyez, c'est quand même du beau.
Est-ce qu'aujourd'hui, le Jean-Paul Dubois adulte revient dans ces jardins régulièrement? Vous avez besoin de ce contact avec non seulement la nature, ces arbres, mais peut-être aussi avec votre passé, votre enfance, et pour filer la métaphore avec les arbres, vos racines?
Jamais.
Vous ne revenez jamais?
Jamais, je reviens jamais. Je ne peux pas revisiter le passé.
Vous venez pourtant de le faire avec nous.
Parce que vous m'amenez là, c'est moi qui vous amène là, mais c'est vous qui m'orientez vers des souvenirs. J'aime pas revenir dans le passé. C'est dans le cadre d'un travail comme ça, c'est formidable. Mais dans le cadre de la vie de tous les jours, il faut avancer. C'est un truc. Moi, j'aime pas le passé, j'aime pas l'histoire. J'ai horreur de l'histoire. C'est un truc qui m'a toujours fait chier depuis que je suis gamin. Je conçois très bien qu'on fonctionne avec ça. Mais moi, j'adore le moment présent. C'est là qu'il faut être.
Jean-Paul Dubois, ce chemin d'écrivain à Toulouse, dans les jardins de Toulouse, se termine. Et bon, c'est l'usage dans cette émission. Je vais vous demander de nous proposer une chanson, une musique que vous associez à ce chemin que nous venons de parcourir ensemble.
Comme je vous ai dit sans doute pas mal de bêtises, je vais vous trouver une très très belle musique qui est Cantus in Memoriam, Benjamin Britten, qui est une musique d'Arvo Pärt, qui est sans doute le truc le plus triste que la Terre ait jamais porté. Mais je trouve que ça va bien avec les jardins, parce que c'est majestueux, mais c'est une très très grande beauté.
Merci Jean-Paul Dubois.
Merci à vous.
C'était Le chemin d'écrivain à Toulouse de Jean-Paul Dubois, un homme qui n'habite pas le monde de la même façon. Ses livres, dont son prix Goncourt et le formidable Une vie française, sont publiés aux éditions de l'Olivier ou en poche chez Point. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast et sur l'application RTL. Dimanche prochain, nous irons rejoindre en Bretagne le prix Nobel de littérature, Jean-Marie Le Clézio. Je vous souhaite un très bel après-midi.
Midi à vous aussi, Bernard Lehu, merci. Et à dimanche prochain, vous écoutez RTL, il est 13h.
RTL Midi, Alexandre de Saint-Aignan.
L'heure d'un nouveau point sur les titres de l'actualité. Lionel Messi en larmes au moment de faire ses adieux à Barcelone. J'aurais aimé que ça se fasse dans des meilleures conditions, affirme le sextuple Ballon d'Or. J'ai promis à mes enfants que l'on reviendrait à Barcelone. Pour ce qui est de son éventuelle arrivée au Paris Saint-Germain, Lionel Messi évoque une possibilité. Il ne ferme pas la porte, mais rien n'est finalisé, je cite. 33 médailles, dont 10 en or pour les Français au JO de Tokyo. La dernière, une médaille d'or pour les handballeuses qui s'offrent ainsi le premier titre olympique de leur histoire. La délégation tricolore se classe 8e alors que va commencer la cérémonie officielle de clôture des Jeux Olympiques au Japon. À suivre également cet après-midi, le passage du flambeau en vue de Paris 2024. Une célébration est prévue avec de nombreux athlètes au pied de la Tour Eiffel. Le gouvernement serre la vis à la veille de l'entrée en vigueur du pass sanitaire pour les restaurants, les bars ou les trains. Le ministère de la Justice va envoyer une circulaire demain pour demander une réponse pénale, efficace, dissuasive et rapide, je cite. En clair, une forte amende pour ceux qui utiliseront le pass sanitaire d'un proche. 135 € d'abord et 1 500 € en cas de récidive dans les 15 jours. Une main de fer dans un gant de velours, puisque d'un autre côté, le ministre de la Santé annonce un assouplissement pour les non-vaccinés. Un test négatif sera désormais valable 3 jours au lieu de 2. Des autotests seront également déployés pour éviter l'engorgement des centres de dépistage. On parle également football cet après-midi avec la suite de la première journée de Ligue 1. Pas moins de 7 rencontres au programme et on on commence à Rennes qui reçoit le RC Lens. Christian Panversé vient de commencer.
Et oui, un match synonyme d'examen d'entrée pour les Rennais qui joueront les barrages de la Ligue Europa Conférence les 19 et 26 août prochains. Premier match aussi, vous l'entendez peut-être, avec du public, 18 000 personnes titulaires du pass sanitaire et porteurs du masque. Et le masque, je peux vous dire, n'empêche pas les supporters de donner de la voix. Superbe ambiance ici à Rennes et pour l'instant, après 2 minutes de jeu, 0-0.
Et ça fait du bien de retrouver les supporters. Merci beaucoup Christian Panvert. La météo, Valérie Quintin, demain plein soleil, toujours le sud, toujours pour le sud. Et puis des températures encore un peu justes.
Alors oui, c'est vrai que c'est pas aussi pourri qu'on pouvait s'y attendre. Néanmoins, on aura quand même quelques averses orageuses qui vont circuler sur le Grand Est cet après-midi. Et puis, des petites averses orageuses aussi qui sont présentes le long des côtes de la Manche et qui peu à peu vont gagner tout le Pas-de-Calais et le département du Nord. Mais ailleurs, entre les passages nuageux, on peut malgré tout espérer quelques belles éclaircies. Alors ce sera surtout le cas entre les Alpes et la Méditerranée ainsi qu'en midi toulousain. Un petit peu moins sur la moitié Nord, mais c'est pas totalement perdu. Reste les températures. Alors là, pour le coup, c'est toujours un peu frais. 20 degrés attendus à Quimper et à La Rochelle cet après-midi, 21 pour Besançon, 22 degrés à Paris, comptez 23 à Périgueux, 25 degrés à Grenoble et quand même un très beau 32 degrés à Nice.
Merci Valérie Quintin. Un dernier rappel des pronostics pour les courses cet après-midi à Deauville. Pronostic signé Jordan Philippi. Le 11, le 16, le 9, le 5, le 6, le 14 et le 3, la dernière minute, c'est le numéro 16, Pevensey Bay. Il est 13h et 3 minutes sur RTL. Bienvenue, merci de nous écouter. Dans un instant, les voix du crime avec Jean-Alphonse Richard.